Slate Podcast.
Précédemment, dans le système.
Je m'appelle Karim, j'ai fait 8 mois dans une maison d'arrêt.
Je m'appelle Sophie, je suis surveillante pénitentiaire. La plupart du temps, les personnes sont surprises que je fasse ce métier-là justement, parce que je suis une femme, je pense. En gros, notre matinée, ou notre après-midi d'ailleurs, elle se ressemble beaucoup. Seulement, la matinée passe plus vite, généralement.
Le temps, il faut le fractionner et il faut que ça soit tous les jours pareil.
C'est un ancien, moi, qui m'avait dit ça.
Tu te lèves, tu plies ton lit et tu te rallonges pas dessus de la journée. Parce que sinon, tu vas cafarder, tu vas te faire une dépression. Bah, le soir, les trois quarts des mecs, ils regardent tes PMP.
Et ça dure 3 heures et quelques, je peux dire que ça, c'est insupportable.
Épuisant. Épuisant, surtout les matins, nuits. On a du mal, vraiment du mal à récupérer. C'est un rythme très, très fatigant, très éreintant. On est plus irritable. Les surveillants ne sont pas bien vus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel impact on a, en fait. Quel point de vue la société a sur notre métier. C'est ça, je ne sais pas. Parce qu'entre nous, on le sait, ce qu'on fait. On sait ce qu'on vaut. On sait tout le travail qu'on fournit.
La violence là, qui est en ce moment dans les prisons, elle est vraiment folle. Vraiment, vraiment folle. T'as une embrouille, ben, tu sors en promenade avec ton bout de miroir. Hein. Tu sens que le mec avec qui tu t'es embrouillé, tu vois qu'il est balafré partout, bah tu sais qu'il va falloir te défendre. Si tu ressors pas en promenade, ça veut dire que t'es un peu une fiotte, donc t'es obligé de sortir en promenade. Des fois il se passe rien, des fois tu te bats. Faut pas se laisser faire. Faut connaître ça, faut pas se laisser faire. Tu te laisses faire une fois, c'est mort. Faut rien déclarer. Faut pas déclarer ton tabac, faut pas déclarer ton shit, parce qu'il y a de plus en plus d'indigence, beaucoup de clandestins qui ont rien, et ça dépouille sec en promenade. Hein. Le mec un peu naïf qui sort avec son paquet de tabac roulé plein en promenade, il va se faire essorer. Et tu mets une cigarette dans ta chaussette et c'est tout. Même des fois, moi, je sortais en promenade sans tabac. Là, je disais que j'avais rien. En promenade, tu vas pas t'amuser à tourner en contresens. Hein. Tourner dans le même sens. Faire attention à des pièges, parce qu'il y a des mecs qui vont te dire « Tiens, je te donne du shit, va attraper les yoyos par-dessus le grillage. » Ça jette le shit, la coke et les médocs. Et ils passent par-dessus. Il y a des gens avec des raquettes de tennis tous les jours, matin et soir, qui jettent des colis dans la promenade. Et des fois, tu as des colis qui sont coincés dans les barbelés. Alors, ils prennent des indigents ou des clochards et ils les font monter aux barbelés pour les ramasser. Ça, faut pas tomber dans ces pièges, faut pas rendre service. Faut être sans pitié. Dans la mesure du possible, on reste sans poli, mais être sans pitié. Sinon, tu es une victime.
Quelles sont les règles de sécurité ? Ne jamais lâcher sa clé ? Ne jamais la poser, mettre toujours un pied derrière la porte parce qu'on ne sait pas du tout ce qui peut nous attendre derrière. Bien vérifier quand on a fermé la porte qu'elle est bien fermée. En maison d'arrêt, je parle. Hein. Après, en centre de détention, ça se passe différemment. Garder une certaine distance face à la personne qu'on a en face de nous. Elle ne doit pas nous toucher, mais moi non plus, je n'ai pas à la toucher. Sauf si elle force le passage, entre parenthèses. À ce moment-là, on peut lui barrer le passage, mais elle n'a pas à nous toucher. Si elle nous touche, il y a contact et là, on peut... Alors, il y a agression et agression, forcément. Mais on peut considérer ça quand même comme une agression. Ils n'ont pas à nous toucher, nous, on ne les touche pas.
Tu ne te mêles pas des affaires des autres. Tu ne t'assois jamais sur un lit qui n'est pas à toi. Quand tu arrives dans une cellule, surtout pas. Tu enlèves tes chaussures directes.
Déjà, 2 personnes dans 9 mètres carrés quotidiennement, c'est difficile. Maintenant, ils sont 3. Donc imaginez-vous 9 mètres carrés avec 3 personnes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Forcément, ça dégénère, tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est ça qui est le plus difficile à gérer au quotidien. Parce que la proximité, à force, au bout d'un moment, ça clash. Ça clash forcément, ça clash entre eux. Du coup, ça clash aussi parfois avec nous. Même si on n'y est pour rien ou qu'on est juste de passage, qu'on est là, qu'on ouvre la porte, on en prend plein la tête. C'est pas de notre faute, c'est parce qu'on nous les envoie et qu'on est bien obligé de les recevoir, ces personnes-là. Mais on peut pas les mettre ailleurs, donc on est bien obligé de faire avec.
Comment te dire, moi le fou que j'ai eu en cellule, j'ai eu un fou, un mec arrivé, un clando, déjà les mouvements ils se font à 7h du matin ou à 13h, les mouvements de cellule. Et là, ils nous l'ont envoyé à 19h. Et clac, clac, ils l'ont jeté dans la cellule, ils ont refermé derrière. Et on a vu que le mec, c'était un clandestin qui allait être expulsé. Donc tous, il faut savoir qu'ils se balafrent le ventre, ils se mettent les tripes à l'air pour pouvoir rester en France ou que retarder leur expulsion. Donc on venait à peine de lui mettre les broches, il était un peu voûté comme ça. Et puis dans sa tête, ça allait pas. Première nuit, ça va. Deuxième jour, il commence à parler à la téloche. Et puis j'étais sur mon lit, je vois qu'il prend un verre, il le pète sur la tête de mon pote. Après, il pète une assiette. On a dû l'attacher, lui mettre plein de coups de fourchette dans les jambes, tu sais, pour le calmer. Et voilà, et attendre. Parce qu'il faut savoir que la nuit, il n'y a pas de surveillant en prison. De 23h à 5h du matin, t'as personne. Donc il a fallu l'attacher, il y avait du verre, du sang partout dans la cellule. Il a fallu l'attacher, le maîtriser, le temps que les matons à la première relève, elle arrive, quoi. Ben, ils disent rien. Là, ils ont vu que c'était un fou, qu'il était en crise. Ils l'ont pris, ils l'ont changé de cellule. Mais ils vont pas s'excuser, hein, ils s'en foutent. Hein. Ouais, ils vont le mettre au SMPR, dans une aile de psychiatrique, tu vois. Faut savoir, les mecs se taillent, les mecs sont balafrés, ils se balafrent de ouf pour pouvoir rester en France, les sans-papiers. Bah ben, ouais, pour qu'ils aient les soins et puis essayer de rester un peu plus, quoi. L'été, torse nu, ils sont tous balafrés, Ou alors, c'est des mecs qui ont fait de la prison au bled aussi. Ou des mecs qui supportent pas l'isolement, qui ont été à l'isolement et qui se sont tailladés. Il peut y avoir plein de choses.
Une personne sous la douche s'est fait taillader et c'était choquant pour moi. J'aurais jamais pensé qu'il puisse en arriver là. En fait, je m'imaginais pas ce côté-là de mon travail et de ce qui pouvait se passer réellement en prison. C'était mon étage. Donc, c'est moi qui suis intervenue au premier lieu. Bien sûr, j'ai sonné l'alarme, j'ai averti tout le monde, donc tout le monde est monté. Et la personne a été prise en charge tout de suite. Après, il y a enquête, forcément. Vu que ça s'est passé dans des douches communes, difficile de savoir qui a fait quoi. Des interrogatoires ont été faits par les gendarmes, aussi bien moi que les détenus. Donc, il y a une vraie enquête qui a été ouverte après, oui. Choc fort parce que c'était vraiment pas très beau à voir. Hein. Il y a la peau qui pendait, la main complètement taillée. Choc et en même temps... On m'a dit que j'avais très, très bien réagi. Donc, dans des situations pareilles, enfin, dans une situation pareille, j'étais quand même assez fière de moi d'avoir pu surmonter ça et d'avoir pu réagir de suite, hein, de ne pas m'être effondrée ou être totalement paniquée. Mais je m'en souviendrai toujours. Oui, vraiment, je m'en souviendrai toujours de cet incident-là.
Parce qu'en maison d'arrêt, c'est le tout venant, c'est tout le monde. Du mec qui a tué, au mec qui a pas payé ses amendes, au gilet jaune. Ouais, il y a quelques-uns. Et puis, il y a une volonté politique de leur faire du mal. Ah ouais. Un, deux, trois black blocs aussi. Ouais, pareil, ils ont pris des 4-5 ans, hein, juste parce qu'ils ont donné un coup de pied dans une grenade lacrymogène. C'est dur, hein. C'était dur pour eux. Surtout que c'est des mecs qui connaissent pas ce genre de milieu. C'est pas des voyous, tu vois. C'est pas des délinquants, donc dur pour eux, ouais.
Ça m'est arrivé avec une détenue. J'ai eu plus d'empathie envers elle qu'envers les autres. Hein, parce que c'était un accident de parcours. Tout simplement, elle avait pris pour une mule. Du coup, ça a été très, très dur, l'incarcération pour elle. En plus, elle ne parlait pas du tout le français, elle était complètement perdue. Je l'ai aidée à faire des papiers, à faire des démarches, à faire plein de choses. Elle était complètement désemparée et perdue. Bien qu'après, elle a repris du poil de la bête, hein, et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle s'en sorte la tête haute de tout ça. Mais ça a été très, très dur pour elle.
Je ne m'en mêle pas, j'en ai rien à foutre. Même si ça me peine, je me blinde. J'en ai rien à foutre, ce n'est pas mon problème. Je pense à ma gueule. Ma gueule avant tout. Et peut-être deux, trois potes. Mais attends, tu vas pas faire du social, hein. C'est impossible. Non, non, et puis tu passeras pour un faible si t'es... Non, non, pense qu'à ta gueule et surtout, tu te mêles pas des affaires des autres. Surtout pas. Parce que tu vois, comme les autres sont des chiens, comme les autres parlent mal, comme les gens essayent de te marcher dessus, bah, tu deviens sans pitié comme eux. Voilà, tu lâches rien. Tu lâches rien, c'est déjà assez dur pour toi, donc tu vas pas encore... Non, non, non. Et puis c'est assez facile, hein. Ça va vite. Hein. Tu vois comme ils parlent les jeunes de maintenant. Moi, je me verrouille. Je me mets en mode prisonnier. Puis voilà, je le fais passer comme ça. Hein. Les jeunes, ils s'en battent les couilles. Je dis ça peut-être parce que je suis vieux. Hein. Mais les jeunes, ouais, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Bah, par rapport aux anciens, tu vois, par exemple, quand t'arrives en cellule, t'as 40 ans, t'as un mec de 17 ans, il y a deux lits. Tu vois, normalement, à mon époque, le mec le plus jeune, il laissait le lit à l'ancien. Maintenant, ça se fait plus. Plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça. Celui qui dort par terre, c'est le dernier arrivé dans la cellule. J'ai vu des mecs se faire trancher de l'oreille jusque tout le bras. Hein, et se faire ouvrir la joue. Tu voyais les dents. des gros chaos, des mecs qui te tombent à 10 dessus. C'est pas mano à mano, je te défie, toi, la promenade, toi et moi. Non, c'est 10 mecs qui te tombent dessus dans l'escalier, qui te défoncent. Je suis copété. Et puis comme les matons, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la promenade parce qu'ils sont en sous-nombre. Et le mec se fait enlever ses chaussures, se fait dépouiller, puis tu traînes son corps à la porte pour qu'il soit soigné. Ils rentrent pas dans la promenade, les matons. En France, c'est comme ça. Personne n'intervient.
Effectivement, il y a des moments où on ne peut pas intervenir. Les bagarres en cours de promenade, c'est malheureusement parfois vrai. Parfois parce qu'ils sont très nombreux en promenade. Parfois parce qu'on ne sait pas si c'est une simulation ou pas une simulation pour pouvoir nous agresser ou pas. On ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Les cours de promenade sont très étendus, sont très grandes, ils sont très nombreux.
Mais souvent, il y a des mecs de 2 ou 3 anciens qui interviennent, tu sais, qui arrivent à avoir un pouvoir sur les jeunes. Mais sinon, le mec il se fait tomber à 10, ouais, il est KO, il le tire à la porte, et voilà. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, t'as un mec qui se fait planter, un mec qui se fait... Tous les jours. Et de plus en plus, ça m'a choqué, ouais. C'est de plus en plus violent. Ouais.
Maintenant, on va quand même à tout prix essayer de faire quelque chose, à savoir qu'on ne peut pas intervenir non plus comme ça spontanément, qu'il faut qu'on s'organise, qu'il faut parfois qu'on s'habille. On a des habits d'intervention, on va dire, des uniformes d'intervention pour justement se protéger, protéger des coups de poignard, enfin plein de choses qu'il faut mettre en place avant d'intervenir sur des grands espaces. L'intervention sera différente en cellule, bien sûr, ou sur une coursive où ils sont que 3 ou 2 personnes, ou une personne, forcément, c'est pas la même chose, non.
Et il y en a eu 3-4 suicides, mais ils n'en parlent pas, on n'en parle pas, ils n'ont pas intérêt à en parler. Et puis au mitard, ça torture, hein, faut le dire, les gens ne le savent pas, mais au mitard, les matons du mitard, c'est des sadiques. Ils peuvent venir te mettre une branlée, te foutre à poil et te foutre une branlée à 4h du matin pour rien. Ça existe encore en France, on te torture. Te défonce la gueule. Tu peux pas porter plainte en France parce que ta parole de taulard contre l'institution pénitentiaire, elle vaut rien. Donc, ils sont en impunité totale presque. Bon, à part si tu le gars et que c'est prouvé et qu'il y a une enquête. Mais sinon, il n'y a jamais d'enquête, il n'y a rien. Moi, j'ai vu des mecs remonter du mitard dans un état. On leur crache dans la bouffe, on leur met des coups de lacrymo sous la porte. Ils prennent des énormes branlées. Pas évident, pas évident. À tel point que je sortais en promenade que le matin à 8h à la fraîche tranquille et puis après, je reste en cellule. Pour me tenir loin des embrouilles. C'est le seul moyen.
Émilie Martin, je travaille dans la réinsertion des personnes condamnées soit à l'extérieur, soit en milieu carcéral. En gros, je fais du service après-vente après la décision judiciaire prise par les magistrats. Mon père était magistrat et m'a transmis effectivement d'un point de vue... Moi, le droit, ça fait partie de ma culture depuis toujours, en fait. Mais une certaine vision, effectivement, de la justice, c'est-à-dire l'idée que c'est une lourde charge que d'exercer les métiers judiciaires, qu'à partir du moment où on a un pouvoir qui est lié à l'exercice de ces métiers-là, ben, faut en être digne et du coup, faut avoir les épaules pour et en aucun cas en profiter ou user et abuser du pouvoir qu'on nous a donné et pour lequel l'État nous fait confiance. Ça, c'est une certitude. Cette vision de justice-là, c'est celle que partage mon père et c'est celle que je pense avoir eue en héritage, c'est clair. Maintenant, c'est violent parce que c'est pas forcément celle qui est partagée par le plus grand nombre, en fait.
C'est déjà arrivé, hein. Alors, on le voit pas sur le coup, forcément. On en entend parler après, de ces personnes-là qui font ça, ça ou ça, qu'ils ne devraient pas faire. Des collègues, je parle. Je trouve ça dégradant, en fait. Salissant pour le travail qu'ils font. Pour l'uniforme qu'ils devraient respecter, en fait. Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elles ont fait ça, ça ou ça. En fait, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'elles ont franchi une certaine barrière et qu'elles se placent de l'autre côté. À ce moment-là, elles n'auraient pas dû prendre ce travail-là.
À partir du moment où tu recrutes des personnels parce qu'il y a un besoin, encore une fois, de surveillants, où tu recrutes 2 à 3 promotions de surveillants à 1000 à 1100 personnes par an, avec une moyenne... alors, le chiffre, ça ne veut pas être forcément très parlant, mais je dirais une moyenne de 3 ou 4. Ben, tu as dans le lot des personnels corruptibles, tu as des personnels violents, tu as des personnels... pas très humains. Tu as des personnels, voilà. Pour tout un tas de raisons, tu as des personnels qui, pour moi, sont les premiers au contact des détenus et donc les premiers qui se doivent d'être irréprochables parce qu'avant même nous, on ne les voit pas 24 heures sur 24, on ne vit pas avec eux. Eux, ils vivent avec eux. Ils les réveillent le matin, ils leur donnent à bouffer, ils les sortent pour se promener, ils les re-rentrent en cellule, etc., etc., etc. Bon, quant à ces mecs-là qui ne sont pas irréprochables, eh ben, tu te confrontes à un système qui ne l'est pas non plus.
Après, toutes les personnes ont des faiblesses, hein, je le comprends aussi, et qu'on a des faiblesses. Mais si on sent qu'on ne pourra pas tenir, hein, vaut mieux peut-être arrêter là que de transgresser certaines règles et de se retrouver parfois de l'autre côté des barreaux, malheureusement. Ces personnes-là, du coup, ne sont pas très bien vues par la suite. Forcément, on va prendre nos distances. Et ouais, c'est comme si ça laissait notre boulot, notre travail. Donc forcément, on ne va pas être très sympa avec. On va être déçus par rapport à ce qu'elles ont pu faire, en fait. On se pose beaucoup la question pourquoi elles ont passé le cap, pourquoi elles sont arrivées là, parfois par nécessité, hein. Mais il y a toujours d'autres solutions que de faire ça. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus faibles que d'autres, hein, et qui se laissent avoir, tout simplement. Peut-être l'appât du gain aussi, je ne sais pas. Peut-être des problèmes d'argent aussi, justement, qui incite à. Et puis, on rentre peut-être dans un engrenage. On l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, on le fait trois fois. Et puis, on ne s'en sort plus. Parce qu'on l'a fait tellement de fois que, qu'on ne peut plus s'en sortir, en fait. C'est trop tard pour faire machine arrière.
Parce que je ne dis pas que les détenus sont irréprochables. Mais enfin, si en face d'eux, ils ont un mec qui va prendre un tout petit billet pour faire passer ceci, pour faire passer cela. Mais encore une fois, le mec qui est payé 1500 ou 1400 euros hors heure sup pour faire ce taf-là, mais moi, je le fais pas. Enfin, faut pas déconner. Pour te faire insulter, cracher dessus, parler comme une merde les trois quarts de la journée, faut toute proportion garder, je le fais pas. Donc ça part d'une valorisation de cette fonction du surveillant, et puis d'une meilleure formation, du coup, et recrutement surtout. Et puis voilà, ça engendrera une considération et du coup un travail plus adapté par rapport au public des détenus.
Un surveillant, un porte-clés qui fait qu'ouvrir et fermer tes portes et qu'on est parfois des méchants qui parlent mal aux détenus et qui ne leur veulent pas forcément du bien ou des choses comme ça. Je pense que de toute façon, ça restera quelque part ancré et qu'on aura du mal à transformer les mentalités.
Et puis les matons, c'est plus les mêmes. On voit que ça a baissé, le recrutement des matons a baissé. Ils sont cons comme des bites. Quand il y a, par exemple, un conflit, au lieu de le désamorcer comme ils faisaient avant à l'époque, maintenant, ils vont te chauffer jusqu'à ce que tu pètes un plomb et que tu ailles au mitard. Et les matons sont vachement, vachement plus durs. Bon, pas tous, hein, c'est comme partout. Hein. Mais je les ai trouvés bien cons, là, cette fois-ci. Un maton qui t'a dans le nez, par exemple, il peut, à l'heure de la promenade, il peut juste entrouvrir. Tu veux sortir, ouais, paf, il te referme la porte au nez. Voilà, et là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire.
Les détenus, forcément, ils nous en veulent. Les familles des détenus, parfois aussi, nous en veulent. Alors qu'on n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues. Parfois, c'est lourd aussi à porter. Que tout le monde nous en veut et qu'on n'est pas, comment dire, on est le dernier maillon de la chaîne, mais on n'est pas là pour... On a un travail qui est difficile. Et je pense que les personnes ne s'en rendent pas compte. Tout ce qu'on peut faire, en fait, derrière notre uniforme, ce qu'on représente. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir.
Parce que la prison, c'est comme le sexe. Hein. Si tu ne l'as pas fait, tu connais pas. Hein. Faut y passer, quoi. Et éviter d'y passer parce qu'ils vont dérouiller. Après, ça ne sera plus jamais les mêmes. Hein. Après, ça ne sera plus jamais les mêmes. Ça peut rendre méchant.
Ah bah des fois, il y a des matons qui glissent. Hein. Un jeune qui est en mandat dépôt, qui va peut-être prendre une grosse peine, le maton lui répond pas ou lui rit au nez, bah des fois, bah, il défonce le maton. Hein. C'est une façon de... Un exutoire, une façon un peu de montrer que t'existes, que t'es vivant. Hein. Parce que des fois c'est dur. Hein. Faut pas oublier que t'as des mecs, ils vont peut-être prendre 30 ans. Ils sont en mandat dépôt, ils vont peut-être prendre 30 ans. Donc un maton, qu'est-ce qu'il va lui faire? Un mec qui a pris deux fois perpète, le maton, qu'est-ce qu'il va lui faire? Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre...
c'est un métier où il y a beaucoup de relations humaines, en fait. Vraiment, beaucoup de relationnel. Énormément, même.
Bah, le seul lien, c'est qu'il peut faire passer un papier. Voilà, tu vas demander ton pécule, par exemple, pour savoir où t'en es. Tu vas lui donner à 7h du matin ou à 13h, et basta. Quand ils sont plantés dans tes cachetons, quand l'infirmerie s'est plantée dans tes cachetons, eh ben, tu le dis au maton pour qu'en fin d'après-midi, après la promenade, tu puisses aller au SMPR réparer le truc. Mais t'as des matons qui veulent pas le faire. Ils ne veulent rien faire.
S'ils veulent discuter, s'ils veulent me raconter leur vie, ils peuvent. Moi, ça me dérange pas du tout de les écouter, de les répondre. Parfois, ils demandent des conseils, pas sur leur vie personnelle forcément, mais des conseils sur des papiers à faire, des documents à remplir, des conseils sur leur jugement, enfin plein de choses. Mais moi, je m'arrête au beau temps et au soleil dehors. On est là aussi pour les écouter, il n'y a pas de souci. On peut parler. Moi, j'ai déjà eu des personnes incarcérées qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont dit combien ils avaient d'enfants, où ils habitaient, comment ça se passait. Par rapport aux documents qu'on leur apporte, on voit très bien que les enfants ils sont placés à droite à gauche, que ça ne va pas être facile. Que par exemple, la femme elle est partie parce que lui, il est en prison et que ça va être compliqué pour lui après. Oui, forcément. On discute. Et s'ils ont besoin de discuter, on est là aussi pour écouter, pas seulement pour les enfermer, les faire sortir ou des choses comme ça. Mais il faut aussi avoir le temps de pouvoir le faire. Et le temps, bien souvent, c'est ce qui nous manque. Parce que je reviens toujours à la même chose, mais on manque de personnel. Donc, on peut s'attarder. Quand tout va bien, on peut s'attarder et discuter. D'ailleurs, sur des petites structures, je pense que on prend plus le temps, justement. Les personnes qui, par exemple, sont au SMPR, où c'est vraiment des petites structures et tout ça. Alors, au SMPR, ce n'est pas vraiment des personnes qui sont bien dans leur tête. Mais peut-être qu'on prendra plus le temps de les écouter, de les apaiser aussi, ou des choses comme ça. Il ne faut pas non plus passer que par des médicaments. Donc, on peut plus avoir plus de relationnel, vraiment, avec ces personnes-là, que quand vous avez 100 détenus à gérer à l'étage. Qu'on est leur intermédiaire, en fait, qui puisse s'exprimer avec nous, oui. On n'a pas forcément le temps de tout le temps les écouter et de les entendre se plaindre aussi ou de qu'ils nous racontent leur vie, en fait, et leur tracas et tout ça. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait qu'ils soient à moitié moins sur une coursive ou que nous, on soit deux fois plus. Sinon, on ne peut rien faire. On est pressés comme des citrons, j'allais dire.
Tu les vois, ils subissent, ils n'aiment pas leur taf. Ils n'aiment pas leur taf, à part quelques-uns qui sont gentils, tu vois. Mais sinon, ils subissent, les mecs.
Je ne discute jamais de ma vie personnelle. Mais jamais. Ils ne savent même pas comment je m'appelle. Non, j'ai pas envie qu'ils rentrent là-dedans. Ça ne les regarde pas. Tout simplement.
Vous venez d'écouter Le Système, un podcast d'Élise Costa et Mathilde Largetot, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. La musique est signée Arnaud Denzler.